C'est qui?
C'est le poil à gratter.
Ah, encore un truc à me vendre?
Non, nous ne sommes pas capitalistes, ni journalistes, ni bouddhistes, et même pas tristes.
Et alors, qu'est-ce que vous faites?
Bah là que tu luttes, on s'essaye, on bricole, et surtout on dresse l'oreille au lieu d'oublier ou bâillonner.
Bon, bah entrez, là.
Wham bam boum, wham bam ti boum, 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 wham bam boum.
C'est quoi ça?
Big Six. Ouais, c'est les gros six. C'est super bien, c'est vachement punchy.
Après, cool. On connaît pas le sens des paroles.
Ouais, on dirait du Snoopy Dogs, si ça se trouve, c'est hyper sexiste.
c'est Snoop Dogg.
Ouais, enfin bref. Moi, j'ai un autre truc à vous proposer qui est vachement plus pertinent.
Ouais, vas-y, on voit.
C'est bien ça.
Oh non.
Bon, non, non.
Ah non.
Ah
non, non, c'est pas assez militant.
Non, mais c'est ouais. Trop vieux.
De toute façon, moi j'ai une autre idée.
Bah
c'est quoi?
Bah c'est du luth.
Oh,
ah, tu luttes.
Ah là là, non,
ok.
Blague, bon, sinon, on retournerait pas un peu sur un petit truc
Ouais, on a qu'à remettre les biguines des grossistes là. Hein.
Ouais. Allez, ça au moins ça pulse.
Et c'est le retour du poil à gratter sur les ondes. On est content d'être là, d'être sur les ondes avec vous. Mais d'ailleurs, on aimerait revenir sur le poil. Quand est-ce que ça a commencé, d'ailleurs? Quand est-ce que ça a commencé, le poil? Et puis, d'où il tient son nom?
Alors, beaucoup de questions. Alors, le poil à gratter, ça a commencé, Florent, ça a commencé il y a environ 3-4 ans.
Oui, c'est ça.
Ouais, 3-4 ans. Donc, on a commencé à 5-6-7 personnes. Et en fait, le poil à gratter, ça a toujours varié entre alors 3 dans les petites périodes et c'est même allé jusqu'à 8-9 personnes, voilà. Donc ça a commencé il y a 4-5 ans. Et pourquoi le poil à gratter? Alors en fait, tu te souviens, Florent, comment on s'appelait au début?
Ah oui, je me souviens, c'était Cynorhodon.
Et en fait, l'idée de Cynorhodon, c'était gratuit, donc ça gratte, quoi. Ça gratte et ça démange. Et en fait, je me souviens, notre slogan au départ, c'était Cynorhodon, l'émission qui démange. Et ce qu'on voulait faire, c'était... c'était gratter un petit peu la société sur des questions de société. On voulait un petit peu remuer tout ça et le donner à entendre sur les ondes, voilà.
Et on s'est pas présenté, mais on le fera pendant l'émission tout de même, parce que là c'est Loïc qui a parlé, c'est Florent, il y a également Clémence et Clémentine. Et donc le poil à gratter, comme tu disais, a beaucoup évolué, que ce soit vous étiez trois, ensuite il y a d'autres personnes qui sont rajoutées. Et là, on s'est lancé dans une grande aventure sur les ondes avec cette émission mensuelle là, qui s'appelle Actulut, avec un format où on va faire entendre, on va gratter sur tous les plans, sur toutes les racines, que ce soit des interviews, des reportages, des chroniques, des micro-trottoirs. Ce sera très riche. En espérant que ce soit pour vous également le cas.
Voilà, ce sera multiforme, il y aura plein de trucs. Et
exactement.
L'idée, c'est de pas trop se limiter. Donc, on aura des envies passagères de passer un témoignage, d'aller rencontrer quelqu'un.
Il y aura aussi des entretiens aléatoires sur bitume.
Sur bitume.
C'est ce que certains appellent des micro-trottoirs.
Ah.
Mais je déteste ce mot, micro-trottoir.
Donc, c'est micro-bitume.
C'est entretien aléatoire sur bitume.
Bah, c'est pas mal.
Il y a d'autres personnes encore là qui sont pas au micro, hein, qui font partie du collectif. On va citer Johan également.
Ouais.
On va citer Manu qui est à Poligny, mais qui fait partie du poil à gratter.
Envoyé spécial, hein, directement.
Envoyé spécial, exactement. Spécial. Le poil à gratter, c'est Reporters sans frontières également.
Et Anna.
Ok, on envoie le sommaire.
Allez, c'est parti.
On vous présente ce qu'on fait aujourd'hui.
Ouais.
Voilà, c'est parti.
C'est parti.
Bienvenue dans Actulut. Tout de suite, le sommaire. Je l'ai un peu fort hier en soirée, je crois.
Bienvenue dans Actulut. Tout de suite, le sommaire. Toujours pas. Bienvenue dans Actulut.
Bienvenue.
Bon, tant pis. Tout de suite, le sommaire.
Vous attendez le TAV, là?
On a comme le tram kamikaze, ça te coûte.
Ouais, ouais.
Le tram ?
Oui.
À Paltav.
C'est quoi, Paltav ?
Le TAV. Vous avez entendu parler du TAV ?
Non.
Le train Alta Vitessa.
C'est quoi, ça ?
Ce projet ne remet pas en cause du tout l'aliénation et l'exploitation capitaliste. Il l'aménage pour un temps nouveau où les capitalistes ne veulent plus être employeurs. Ils veulent plus s'emmerder à respecter le droit du travail. Ils veulent plus s'emmerder avec tout ça. Plus employeurs.
Mais ça, c'est très pragmatique, parce que nous, on est pragmatique. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne le fait plus.
Vous habitez pas à Besançon ?
À Belfort.
Il n'y a pas de compostage ?
Si, si, il y a. Mais je composte.
Tout est faux. Tout est faux. Et ça, c'est à nous à le dire. Le collectif local a commencé à le dire. Nos amis, nos TAV de Chambéry le disent aussi.
Alors, on peut être que étonné, disant un mot. Est-ce que vous attendez quelque chose ? C'est juste presque une aparté, j'ai envie de dire, alors que toute la semaine y est consacrée. Mais de votre point de vue, c'est votre point de vue qui est intéressant. De votre point de vue, juste un petit commentaire, et l'un et l'autre sur...
Des cours de yoga le 1er mai.
La COP21.
C'est mort.
Là, ça serait le moment idéal pour lancer une chronique qu'on pourrait appeler « La lutte ordinaire ». Et je pourrais balancer le jingle qui aurait sûrement cette allure-là.
Bah, j'espère toujours plus proche de l'époque, plus audacieuse, avec plus de poils à gratter. Et voilà, on repart pour 10 ans.
Ensemble, on va faire n'importe quoi.
Alors, comme vous le savez, l'actualité du moment, c'est la COP21. Et Loïc, toi, tu vas nous parler d'effondrement, de choc émotionnel, de société enquistée. Donc, sortez vos violons et Loïc va vous les faire grincer.
Ouais, je suis désolé, on va commencer sur un truc un petit peu violonneux. Ça va être du gros sérieux, là, mais... Donc, j'aimerais bien qu'on écoute ensemble, d'ailleurs, un premier son que j'ai chopé sur la toile. C'est parti.
Bonjour
et bienvenue dans ce documentaire.
La COP21, c'est génial.
Tous ensemble, on va régler tous les problèmes.
On va sauver la planète Terre.
Et ça va être extraordinaire.
En une semaine, on va tout changer.
Enfin, nous, on n'est pas invités, mais...
Mais je fais vraiment confiance aux industriels.
Et aux gouvernants.
Et aux industriels.
Pour avancer ensemble, main dans la main.
Une nouvelle ère s'ouvre devant nous.
Ils vont tous venir dans des très gros avions.
Nos dirigeants vont prendre des décisions déterminantes.
Mais pas trop.
Déterminantes quand même.
Bah oui, pas trop.
Faut être réaliste.
Il faut pas trop bouleverser l'économie, bien sûr.
On doit continuer à consommer toujours plus, c'est normal.
Bah ouais, faut pas déconner.
On va se redire
des trucs qu'on se
dit... Depuis 15 ans.
Et qu'on va appliquer dans 30 ans.
Ça va être génial.
Si tous les acteurs économiques et tous les États sont d'accord.
Bien évidemment.
Oui, il faut avant tout que tout le monde soit content.
Ça va être réellement incroyable.
Ils vont absolument tout changer.
Et vous y croyez, vous ?
Tous ensemble, on va faire n'importe quoi.
Et sinon, ce serait possible de regarder ce documentaire ? Merci.
On va faire n'importe quoi. Alors, ce que vous venez d'entendre, en fait, c'est pas du made in poil à gratter. En fait, c'est le début du dernier documentaire réalisé par un collectif qui s'appelle Datagueule sur la COP21. Alors, c'est bien fichu, c'est marrant, mais en même temps, ça fait un peu mal. Alors, sur le ton de l'ironie, on entend ce qu'on sait déjà tous un petit peu. La COP21, qui a commencé depuis quelques jours, va accoucher d'une souris ridicule, un petit truc consensuel et tout mou qui changera rien. Le pire, c'est qu'on a eu droit à une campagne de communication de grande envergure sur l'importance de la COP21. Comme si c'était nous qu'il fallait convaincre. Alors attention, vous allez maintenant entendre un des plus grands écologistes que la Terre ait connu.
En décembre 2015, à Paris...
Le monde aura rendez-vous avec l'avenir de la planète. Nous accueillons en effet ce qui s'appelle la Conférence des Nations Unies sur le climat, c'est-à-dire la COP21.
L'objectif est simple. Il s'agit d'aboutir à un accord mondial afin que notre planète reste vivable. Nous savons que si nous n'agissons pas maintenant, ce qui nous menace, c'est un dérèglement climatique catastrophique avec des conséquences dans tous les domaines. Notre responsabilité est donc historique, puisque nous sommes la première génération à la fois prendre vraiment conscience du problème, mais nous sommes la dernière génération à pouvoir agir.
Alors vous l'avez reconnu, hein, c'est notre Fabius National, grand chef de la 21e grande blague sur le climat. Nous sommes la dernière génération à pouvoir changer les choses. Alors ça y est, c'est la fin de la société de consommation. Et on n'y croit pas une seconde. Alors pourquoi ? Je sais pas vous, mais moi, j'ai aucune confiance en ces hommes-là qui sont cul et chemise avec la finance, avec les industriels, avec tous ces zozos qui s'en foutent éperdument du réchauffement climatique. On écoute le clip de Fabius, on prend une petite colère, puis la vie reprend son cours, on passe à autre chose. On s'habitue à entendre que nous fonçons dans le mur, ça devient un bruit de fond, inaudible. Ça rentre par une oreille, ça nous exaspère, puis ça ressort assez vite. Et puis parfois, c'est un peu différent. Alors ça peut être un chiffre, une voix, un argument, une donnée, ça nous sort du sommeil, et ça nous tape à l'oreille un peu plus fort. Une émotion, une peur, une angoisse, une grosse colère. Bref, un choc émotionnel. Alors moi, ça m'est tombé dessus. J'étais dans ma voiture, une oreille sur France Culture, à 14h, lundi, 23 novembre dernier. C'était Continent Science. Alors moi, j'écoute pas trop Continent Science, j'ai jamais écouté trop la radio à cette heure-là. Et le titre de l'émission, c'est « Et si l'effondrement était l'horizon de notre génération ?» Donc il est justement question de climat. Donc on entend une de ces infos qui peuvent nous faire grimacer un moment.
Je prends l'exemple de la première banque de France, la BNP, qui est une grande amie du climat, comme tout le monde sait. La preuve, c'est qu'elle parraine généreusement la COP 21. C'est bien. Mais il suffit d'éplucher ses comptes pour être saisi d'un petit doute, un léger doute. Ces 5 dernières années, la BNP a engagé en investissement direct et indirect 6 milliards de dollars en faveur des programmes éolien, solaire et géothermique. C'est bien, 6 milliards. En revanche, contre 57 milliards pour l'investissement dans le charbon, le pétrole et le gaz, soit très exactement 9 fois plus d'argent pour les énergies non renouvelables et très largement réchauffantes. Donc les amis de la Terre ont placé la BNP parmi les 9 finalistes du prix Pinocchio. J'ai trouvé ça dans le Canard enchaîné. Qui sera décerné le 3 décembre aux multinationales les plus climaticides. Je trouvais que c'était pas mal, le site climaticide.
Donc le prix Pinocchio, rien de neuf sous le soleil, hein, on le sait, ce genre de choses, pas en détail, mais ça ne nous étonne pas. Et puis j'entends ces deux petits jeunes scientifiques qui ont écrit un bouquin. Le bouquin s'intitule « Comment tout peut s'effondrer ?». Donc les deux gars, c'est Pablo Servigné, qui est ingénieur agronome et docteur en biologie, spécialiste des questions de transition et d'effondrement, et Raphaël Stevens, donc lui il est éco-conseiller, expert en résilience des systèmes socio-écologiques. On y parle d'effondrement donc, et j'entends ça.
Alors nous ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment voir ce que la science disait. Donc il y a une analyse et une synthèse, la science dit sur l'effondrement de notre civilisation. Et c'est sûr, ça appartient pas, c'est pas un problème des générations futures, c'est aujourd'hui, c'est pour nous,
c'est
pour la génération présente. En cela, la catastrophe est déjà là, on ne peut plus l'éviter.
L'effondrement de notre civilisation. La catastrophe est déjà là, on ne peut plus l'éviter. Alors je sais pas trop pourquoi, mais cette phrase, ces mots, ils m'ont secoué, et ils sont restés. Au fond, je le savais, mais ça m'a réveillé. Ces angoisses, une peur, une colère. Et ces deux scientifiques expliquent. Il est question de seuil. Alors en fait, c'est assez désagréable à entendre. Ils parlent de seuil à ne pas dépasser. Puis si on dépasse, ça s'emballe. On ne contrôle plus rien. Et tout cet équilibre fragile qui part en vrille, entraînant toutes les petites bêtes fragiles qui vivent avec lui. Donc on y parle aussi de minerais, d'une société de surconsommation qui tourne branchée sur le pétrole. Or ce pétrole, il en reste pas mal d'ailleurs, malheureusement. Mais si on va le chercher, on atteint les seuils. Si on les laisse dans les sous-sols, notre civilisation perd son carburant. Elle crève. Dans les deux cas, donc, elle crève. On écoute attentivement et on ne passe pas à côté du petit mot qu'on attendait.
On sait bien que l'histoire est faite d'une succession de... de soubresauts et d'imprévisibles, en fait. L'histoire prend des virages parfois qu'on n'arrive pas à prévoir, qu'on ne peut pas prévoir, hein. C'est la fameuse théorie des signes noirs de Mohamed Nassim Taleb. On a parlé tout à l'heure de basculement, de seuil d'effondrement, les systèmes complexes s'effondrent, mais en fait les systèmes complexes aussi peuvent être soumis à des seuils ou des basculements qui peuvent aller vers le positif. Si à un moment la masse des personnes informées, des personnes qui agissent, etc., dépasse un certain seuil, il peut y avoir des basculements vers peut-être une transition, un mouvement. Alors ça peut prendre la forme d'insurrection, ça dépend ce qu'on en fait, ou de révolution, ou d'avancée majeure, ou de transition plus ou moins pacifique, on ne sait pas. Mais en tout cas, il peut y avoir aussi des basculements dans l'autre sens.
Insurrection, révolution... En fait, ce qu'on sait avec certitude, c'est que notre mode de développement, fondé sur la consommation de masse, la prédation des ressources, ça ne peut pas continuer. Tôt ou tard, et visiblement pas si tard, si rien ne bouge au niveau politique, les seuils sont franchis et tout bascule. Donc il n'y a pas qu'un scénario. En fait, il y a une donnée fondamentale qui vient d'être rappelée par ce petit extrait. C'est que la clé, la seule, c'est d'atteindre ce seuil, cette masse critique humaine qui ne tient plus en place, qui déborde et qui enclenche ce changement de civilisation. Nous y voilà donc. Il va falloir intensifier la lutte. Primo, une petite piqûre de rappel. Donc ça nous vient d'un économiste, philosophe, qui est spécialiste de Spinoza, qui s'appelle Frédéric Lordon. Donc on l'écoute, il était sur le plateau de chez Mermet, qui revient sur les ondes, donc en début d'année dernière. On l'écoute.
J'imagine qu'il doit s'en trouver parmi vous qui se souviennent de cette phrase de Marx, d'une inaltérable, d'une éclatante actualité. Les armes de la critique ne sauraient remplacer la critique des armes. Seule la force matérielle peut renverser une force matérielle, mais la théorie se change elle aussi en force matérielle dès qu'elle s'empare des masses. Ici, le croirez-vous, c'est Spinoza qu'il faut convoquer pour avoir le fin mot de cet emparement. Ce sont les affects. La critique se change en force matérielle, c'est-à-dire en puissance susceptible de mettre des corps en mouvement, si et seulement si elle est capable de faire passer quelque chose par voie d'affect.
Donc la critique Donc les affects, son truc à Lordon, en fait, c'est Spinoza, et Spinoza, son truc à lui, c'est les affects. Et en fait, c'est justement cette émotion qui m'a mis en mouvement et moi qui m'amène à parler ici devant ce micro aujourd'hui. Donc les affects. Secundo, penser la sortie de notre civilisation, par le haut si possible. Il va donc falloir penser une société post-capitaliste. Fort heureusement, on ne part pas de zéro. Il y a tout un tas de gens qui étudient la chose et proposent des pistes. Alors voilà un levier sur lequel notre actu-lutte peut apporter sa petite contribution. Ouvrir l'œil et donner à entendre ce que pourraient être les contours de la prochaine civilisation. Vaste chantier, même pas peur. Alors ça tombe bien parce que la semaine dernière, il y a un type qui est venu à Besançon et qui est venu me proposer des choses franchement alléchantes. Vous allez peut-être le reconnaître après le morceau de Zoufri Maracas qu'on écoute juste maintenant.
Dis papa, t'as collé toi les poissons?
Ah bien sûr, j'ai collé les poissons, enfin.
Elle est comment?
Eh bien, tu vois la mer?
La mer, le grand truc tout noir devant nous qui fait l'air moumou?
Exactement, on dit. Eh bien, cette mer autrefois était bleue. Et dedans, il y avait tout un tas de bestioles, à peu près grandes comme ça, couvertes d'écailles, qu'on appelait les poissons.
Ah ah! Dis papa, t'as collé toi les arbres?
Ah bien, collé les arbres!
Et t'es comment?
Eh bien. Tu vois ce pilote?
Hein?
Eh bien, c'est à peu près grand comme ça, tout marron, avec en haut tout un tas de trucs verts, un peu comme du papier. Ah non, t'as pas connu le papier. Enfin, on appelait ça des feuilles.
Ouais, bref. Dis, papa, t'as connu, toi, les animaux?
Ah, c'est là qui a bien connu les animaux, c'est ton père, mon petit. Les dindons, les outards, les gnous, les girafes, les tempires, les ornithorynques, les phacochères.
Et les insectes?
Les insectes, les phasmes, les araignées, les libellules.
Et c'est passé où, tout ça, papa?
Eh, mon petit, c'est passé où? C'est passé que ça s'est mal passé, mon petit. Qu'on les a bouffés. Enfin, on les a mangés.
Vous avez tout mangé?
Bah oui.
Vous n'avez pas essayé pour les autres?
Bah n'a pas pensé, mon petit. C'est-à-dire que la télé nous disait qu'il n'y en aura plus en 2048. Donc, si tu veux, comme il n'y avait plus en avoir, bah, tout le monde en voulait. Comme tout le monde en voulait, tout le monde en a eu. Et puis, comme tout le monde en a eu et que tout le monde en avait, il n'y en a plus. Exactement. Il va voir. T'as connu, toi, quand il faisait pas 60 degrés? Ah, bien connu. Les vents étaient là comme ça. On se baladait. On avait froid. Froid? Oui, non, le sang, oui. Et les oiseaux? Oh, les oiseaux. Tu vois le ciel?
Le ciel, le grand truc à tout gris au-dessus de nous, ils sont pas bons, qu'on voit rien?
Exactement, mon petit. Eh bien, ce ciel, autrefois, était d'un bleu, tandis que le mastora passe planer au-dessus de nous.
Non, attends, attends, attends. Là, t'es en train de me dire qu'avant, il y a des poissons qui nageaient dans une mer qui était bleue alors qu'elle est noire, qu'il y a des arbres avec des trucs verts, des tapirs, des fois comme cher qu'il faisait froid. Tu serais pas en train de te foutre de moi, non? Et l'eau, t'as connu l'eau?
Calme-toi, mon petit, calme-toi. J'ai connu les fleuves, les rivières, plein d'eau d'un coup. Et vous savez tout? Bah oui. C'est-à-dire, on pensait pas, mon petit. Enfin, on se disait, on sera plus là. Et puis, bah, depuis qu'on meurt plus, nous, on bien nés devant nos emmerdes, tiens. Mais c'est pas de ta faute, tout ça, mon petit, hein. Faut pas être triste, hein.
Ah, je suis pas triste, hein. Je suis fâché, bouffeur d'oiseaux, assassin de poissons, tueur de merde, découpeur d'arbres, gobeur d'insectes.
Que tu vas parler sur un autre temps, si je débranche ton lit, t'es central, hein.
Et les hommes? T'as connu les hommes?
Quelle est la différence, puisque j'ai exécuté d'une phrase la réduction du temps d'emploi, quelle est la différence entre le salaire à vie, je vais terminer mon propos liminaire, hein, d'accord ? Entre le salaire à vie et le revenu de base. La différence est absolument radicale. Et il est extrêmement important que nous y réfléchissions parce que depuis maintenant quelques années, le revenu de base est à la mode. Et cette mode va s'amplifier pour la raison suivante. Le revenu de base est la condition de l'ubérisation de la société. Qu'est-ce qu'a conquis la classe ouvrière dans la lutte de classe? C'est soit le salaire à vie, soit au moins que l'on soit payé pour sa qualification, à travers la qualification du poste, avec des règles, un niveau de salaire obligatoire, fixé par la convention collective, des règles d'embauche et de licenciement. Bref, le mouvement ouvrier soit a conquis le fait de se passer de l'emploi, soit le fait de réguler l'emploi. L'ubérisation de la société, c'est effectivement le fait de se passer de l'emploi, mais de la pire façon. Prenons Uber, mais on pourrait prendre les propriétaires de Blablacar, les propriétaires de cette saloperie qu'est l'Airbnb. Tout ça marche, hein. Et comprenons bien pourquoi ça marche, hein. En crise, en période de crise. Des gens qui n'ont pas un rond, qui ne peuvent pas accéder au train, pour des raisons qu'on peut expliquer de l'évolution de la SNCF. Ben, comme seule issue, ils ont l'écart Macron, où ils mettront, je sais pas quoi, 12 heures pour aller de Besançon à Paris en supportant la musique du chauffeur et en n'ayant aucune possibilité de travailler, ni même vraiment de dormir.
Donc vous l'avez peut-être reconnu. Donc la personne qu'on a entendue là dans l'extrait, c'est un sociologue, en fait, qui a une formation d'économiste, qui est spécialiste de la sécurité sociale et qui s'appelle Bernard Friot. Alors Bernard Friot, il est venu à Besançon la semaine dernière, c'était mercredi je crois, hein, c'est ça?
Ah bah oui, moi j'y étais, c'était mercredi soir, c'était à l'amphi de la fac de lettres.
Ouais,
c'était super.
Amphi l'évêque. Il fallait le trouver, mais pour le coup il y avait quand même pas mal de monde parce qu'il était plein l'amphi. Et donc, voilà, parlons des contours de ce que pourrait être une société post-capitaliste. Et bah, Friot en l'occurrence, il a plein de propositions, il dit plein de trucs.
Mais son, la base pour lui, c'est le, la base de sa pensée, c'est le salaire à vie.
Ouais.
C'est vraiment ça.
Ouais.
Et après, il dessine tout ce que pourrait, comment pourrait fonctionner la société autour de ce salaire à vie.
Ouais. 1 500 € par personne à partir de 18 ans. Puis après, tu peux grader, mais c'est pour tout le monde.
Ouais. En fait, le type a une ambition quand même qui est géniale, c'est qu'il supprime le marché du travail. Il supprime le marché du travail et puis il y a tout un système dans sa pensée de qualification.
Il n'y aurait pas de demandeur d'emploi, par exemple.
Le problème, quand même, avec Frio, c'est que son truc, il est tellement vaste. Et on en reparlera peut-être la prochaine fois.
Et puis finalement, celui qu'on parlera le mieux, c'est quand même Frio, quoi.
Ah, il va venir
Bah, peut-être, je sais pas, j'ai une enfilée.
Ah, super.
Ouais. T'as un numéro, toi. Next, c'est quoi? C'est toi,
Florent. C'est moi.
Oui.
Moi, j'ai décidé de faire du local. Hein, donc, dans une idée de décroissance. Donc, on va décider quand même de parler du TAV, hein, le train grande vitesse qui va relier Lyon à Turin. Et donc, moi, j'ai voulu savoir ce qu'en pensaient les Bisontins. Alors, pour mettre toutes les chances de mon côté et trouver des gens qui étaient au courant du sujet, je suis allé là où il y a des gens susceptibles d'être au sujet, c'est-à-dire à la gare de Besançon-Viotte.
Pas la gare Mouillère.
Non, pas la gare de Mouillère, il n'y a jamais personne là-bas, c'est le désert.
Je voulais juste savoir si c'était possible de vous poser une ou deux questions sur le TAV.
Le quoi ?
Le TAV, le train Alta Vista, savoir ce que les gens de la SNCF à Besançon.
Je connais pas le TAV alors.
Mon chef, moi, s'il me donne pas l'ordre, moi je peux rien faire.
Je te donne l'ordre.
Ah bon non, tu rigoles.
Ah non. Eh, ouais, bon, hein, je serai là, venez demain matin, si vous... un autre chef qui est dans le bureau là, et puis...
Ouais, d'accord.
Mais à quelle heure, monsieur ?
C'est vrai que nous pour l'instant, il n'y a eu aucune info par rapport à ça.
Ce que les opposants disent au TAF, c'est qu'il y a déjà une ligne qui existe, et qu'elle est... On entend souvent parler de ces problèmes d'entretien, que les crédits baissent, etc. Et donc la ligne, elle est...
On n'a peut-être pas le droit de vous répondre.
D'accord.
À la presse, à la radio. Venez voir le chef demain matin, oui, parce que...
Bon.
Oui,
vous êtes soumis sûrement à...
Non, mais on a un code de déontologie par rapport à ça, mais après...
Voilà, vous n'avez rien dit, vous n'avez pas parlé.
On serait bien embêté de vous répondre.
Ah oui,
voilà, déjà, je serais bien embêté de vous répondre, tout simplement.
D'accord, on entend un train. Je suis passé hier et vous m'aviez dit de repasser aujourd'hui. Vous savez, par rapport... Bonjour.
Je sais pas qui vous êtes.
Je suis passé hier soir, en fait. C'était pas vous, ouais, c'était un autre monsieur.
Là, j'ai aucune information à ce sujet-là. Je suis désolé, mais je peux pas vous répondre. Je suis pas informé, donc je peux pas donner mon avis.
D'accord.
Voilà.
Ah, vous savez...
Non, je ne sais pas.
D'accord.
Tout simplement.
Et vous, peut-être, madame ?
Non. Pas plus.
Moi, je suis plutôt favorable à ce type d'aménagement et au transfert de la route sur le train. Donc, si ça se fait dans des conditions normales, je serais plutôt favorable.
Vous attendez le TAV, là ?
Le tram.
Kamikaze, ça te coûte ?
Ouais.
Le tram ?
Oui.
Ah, pas le TAV.
C'est quoi, pas le TAV ?
Le TAV. Vous avez entendu parler du TAV ?
Non.
Le train Alta Vitessa.
Non. C'est quoi, ça ?
C'est un train qui doit relier Turin à Lyon.
Il passe par là ?
Non.
Pour la déforestation, faire des barrages, tout, je sais pas quoi, ça, je suis vraiment pas d'accord. Il faut laisser la nature comme elle est, on a déjà assez de transport, quoi. Franchement, sur ça, je suis pas d'accord. S'ils doivent vraiment dégrader la nature, moi, je suis pas d'accord avec ça.
D'accord. Et vous ?
Je suis pas d'accord non plus. Pas d'accord.
Pareil.
Voilà. Ah, c'est fini. Voilà, c'était notre reporter local, notre la fesse de Besançon.
C'est pas une fesse, s'il te plaît, merci.
Non, respect. C'est ça.
Je suis un aîné, si tu veux, mais pas une fesse.
Mais c'est un très bon lancement sur le reportage que vous allez écouter sur la marche notave qui a eu lieu l'été dernier. Et là, c'est Loïc et Clémence qui peuvent en parler. Vous y étiez, vous avez pris du son. Est-ce que vous pouvez juste resituer un petit peu dans le contexte de... finalement, quand c'était, combien de temps ça a duré, combien de kilomètres?
Alors, il faisait plus chaud qu'aujourd'hui. Oui. C'était cet été. On était avec Anna et Clémence. Et donc, Clémence était à la popote. Hein, Clémence?
Oui, j'y suis allée avec le collectif Resto de Trottoir, en fait. Et donc, on a fait la cuisine pour ces 300 personnes qui marchaient pendant 3 jours.
Voilà, et il marchait parce que du coup, il y a une marche qui a été mise en place, qui a été organisée. Donc, une marche qui relie...
Chambéry.
Qui paraît de Chambéry et qui allait jusque à la frontière italienne dans le
Val de Suse.
Dans le Val de Suse, exactement. Et en fait, donc c'est une marche qui a été organisée justement pour manifester contre cette ligne à grande vitesse entre Lyon et Turin. Et donc voilà, on allait voir ce qui se passait là-bas. Donc on va pas vous en dire beaucoup plus pour l'instant.
On en reparlera après.
On en reparlera après.
Est-ce qu'aujourd'hui encore c'est possible de mettre fin à ce chantier ?
Ah bah c'est sûr que nous on a envie de croire que c'est possible, sinon on ne ferait pas tout ça. Après vous dire une action en particulier qui pourrait mettre fin aux travaux, je vois pas, c'est justement un cheminement quoi, d'où l'idée de marche quoi, j'ai l'impression qu'il pourrait mettre fin à ça quoi. C'est sûr qu'il y a un cheminement politique à faire, parce que nous on a quand même été assez présents sur les luttes italiennes, et en Italie c'est, enfin disons que... Il y a un consensus beaucoup plus fort entre plein de gens, des villages concernés en fait par le TAV, et des relations aussi entre les personnes de ces villages. Et du coup, il y a une communauté notable, on peut dire quoi. Alors qu'en France, ce truc-là, il est complètement inexistant. C'est ce que disent la plupart des gens qu'on a croisés là pendant la marche, c'est que eux, ils veulent bien envisager d'entrer en lutte, sauf que vu que c'est pas une lutte comme Notre-Dame-des-Landes, qui est quelque chose. Qui est une zone en fait où différents gens se connaissent et peuvent s'organiser ensemble, mais c'est du coup un trajet de 100 km où en fait quelques agriculteurs, quelques gens sont concernés dans chaque village, et du coup ça prend pas des proportions de lutte territoriale quoi.
Et du coup pourquoi la marche et pas autre chose ?
Bah parce qu'il fallait trouver une manière de rencontrer les gens justement sur ces différentes communes de la Chartreuse et de la Maurienne. Du coup, qui sont les régions montagneuses où on passait les tunnels. Et la seule manière qu'on voyait un peu chouette de rencontrer ces gens avec plein de monde, sans que ce soit une organisation trop compliquée, c'était de se dire de justement prendre le temps de marcher entre les différentes communes et de marcher en fait sur ce tracé, quoi. Du coup, on se disait que c'était un peu la meilleure manière de voir quels endroits allaient être pris pour poser ce train, quoi.
Ce qui manque, c'est clairement des points de cristallisation, quoi. Eux, ils sont un peu dépités du fait que, depuis 2-3 ans, ça en parle plus chez eux, c'est devenu un peu un truc tabou, et voilà, Lyon-Turin, c'est je sais pas combien de centaines de kilomètres, ça traverse plein de gens, plein de pays, et qu'il n'y a pas du tout de réunion de tout ça, quoi. Et du coup, un petit présidio, des petits présidios à l'italienne, je pense, sous forme d'occupation ou juste sous forme de comité, peut-être c'est ça qui pourrait marquer un peu la reprise pour certains d'entre eux des hostilités quoi.
C'est quoi des présidios ?
Les présidios du coup c'est ouais c'est alors il faudrait demander à d'italien mais c'est un truc un peu polysémique entre le camp fortifié et l'assemblée et le cabanon où tu fais des bouffes et des assemblées quoi. Et du coup c'est une forme c'est un peu le soubassement de la lutte notable, j'ai l'impression depuis des années en Italie où dans toute la vallée c'est parsemé de petits présidios un peu partout, et c'est ça qui fait que les gens se retrouvent voilà, soit pour bouffer, soit souvent pour faire les assemblées, et c'est aussi une forme d'occuper et de retarder l'avancée des travaux quoi. C'est-à-dire que c'est des points de cristallisation à partir desquels les gens s'organisent et qui permettent de concentrer les forces quoi. Et du coup, t'as des présidios qui se rapprochent quasiment du mode ZAD, quoi. Enfin, du mode occupation pour stopper l'avancée des travaux. Quoi.
Et c'était assez intéressant, il y avait... Un ami qui disait à la réunion, la première réunion là qu'il y a eu de la marche, que en fait la principale raison de la mobilisation que nous on envisage en tout cas ici, c'est que on veut pas amener des arguments écologiques, on veut pas amener que ça en tout cas quoi. Enfin c'est pas ce qui nous dérange, en tout cas c'est pas seulement ça qui nous dérange. Et il disait ce qui nous dérange le plus, c'est qu'en fait l'État, il crée ce projet-là, il le met en place, et donc du coup, il met en place une idée de la vie, une idée de comment le monde doit pouvoir faciliter des flux, doit pouvoir accueillir des infrastructures au détriment d'autres formes de vie qui sont déjà existantes. Et en fait, les pouvoirs publics, les gens qui font ces travaux là pour le TAV, ils prennent pas du tout ça en compte. Ils prennent une carte, ils se disent ah ben là on a besoin d'entreposer du remblai. Ils regardent les terres qui sont pas habitées parce qu'ils disent qu'ils peuvent pas mettre ça sur des maisons. Ils font des traits et ils se disent ah ben là ce sera du remblai. Sauf que ces terres là c'est des terres agricoles qui accueillent des cultures depuis des centaines d'années, dans des familles qui se transmettent ce savoir-faire là depuis super longtemps aussi. Et nous c'est là-dessus qu'on a vraiment envie de défendre quelque chose, quoi, de se dire ah ben en fait non, ils ont pas le droit comme ça d'arriver avec leurs gros sabots et dire alors voilà c'est comme ça que ça va se passer et puis ce qui existe déjà ben on s'en fout quoi.
Ouais, après il faut savoir ce que ça veut dire pour nous la victoire aussi, c'est à dire que tout le chemin qui a été parcouru par les Italiens depuis ces 20 ans, toutes les étapes qui sont traversées, tout ce qui a été vécu en bien et en mal, en victoire et en défaite, ça crée un précédent, je pense, qui n'est pas prêt de se diluer, même si le tunnel est creusé. Et, tu vois, Val de Suse, il y a déjà une autoroute, il y a déjà plein de trucs qui ont mutilé l'endroit, et pourtant, il y a une opposition qui est vivace, et il y a des formes de vie qui sont inventées qui sont assez incroyables, quoi. En tout cas, la victoire, ça peut être plein d'autres choses, quoi. Mmh. C'est ça qui fait que ça a du sens aussi de faire des marches comme celle-ci, même si on se demande un peu sur quoi ça va déboucher. Et après, à des moments, on est un peu médusé parce qu'on se dit, ah, les gens, ils ont l'air à certains endroits un peu pessimistes. Et tout ça, c'est que ça crée des moments où il y a d'autres formes de vie qui s'inventent, où il y a d'autres choses qui se vivent. Et ça, en soi, c'est déjà quelque chose, quoi. Mmh. Si on trouve la recette miracle avant la fin de la marche, on viendra te la dire.
On aimerait savoir, pour vous, quelle action on pourrait mettre en place pour réellement bloquer ce projet du TAV.
Donc moi, je pense qu'une des premières choses, même si ça a commencé à être fait, mais une des premières choses qu'il faudrait réellement développer, c'est une réelle information sur l'impact que peut avoir un tracé tel que celui-là. On nous a abreuvé, hein, dans la presse locale, à la télé, etc., on nous a abreuvé de motifs, enfin d'arguments favorables, hein, en termes d'emploi, en termes, enfin bon, tout un tas. Tout est faux. Tout est faux. Et ça, c'est à nous à le dire. Le collectif local a commencé à le dire. Nos amis notables de Chambéry le disent aussi. Donc moi, je pense que si on veut arriver à bloquer quelque chose, il faut faire de l'information. Il faut surtout contrer la fausse information qui est donnée par les médias. Et ça, c'est très difficile à faire. Mais bon, voilà, il faut y arriver.
Est-ce que vous pensez qu'il faut vraiment, comme les Italiens, essayer de bloquer les chantiers, rentrer dans les chantiers, comme ils ont pu le faire, oui, dans la vallée de Souza ?
Je ne me prononce pas au nom du collectif local, puisque je n'appartiens pas au collectif. Moi, personnellement, je pense que oui. Parce que malheureusement, même si bon, je ne suis pas particulièrement violent, mais comme dans beaucoup de cas, c'est quasiment le dernier recours. Les gens qui se sont battus contre sont excédés aujourd'hui parce qu'on ne les écoute pas. Ben oui, pourquoi pas. Oui, il faut occuper les sites comme nos amis de Notre-Dame-des-Landes occupent, comme nos amis de contre le Center Park de Voiron là dans l'Isère. Bon, ils occupent. Oui, il y a des zones à défendre. Il y a des zones à défendre. On les défend autant que faire se peut par l'explication, etc. Et puis pourquoi pas aussi par l'occupation. Pourquoi pas.
Parce que du coup, en Italie, ça a permis de retarder un peu les travaux. Alors du coup, là, c'est fou. Est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité, en fait, de stopper un bulldozer qui est immense? Alors nous, on est tout petit devant, là, mais est-ce qu'il y a des pneus?
Non, il faut être sérieux. Moi, je crois plus, même si je dis que malheureusement, on risque d'en arriver là, moi, je crois beaucoup plus, mais alors là, au rapport de force. C'est-à-dire que là, on arrive à coordonner des actions. Hein, ça s'est fait il y a 15 jours, 3 semaines, là, à Chaparian, avec une conférence. Participant à la conférence, il y avait des amis de Notre-Dame-des-Landes, enfin, de partout, il y avait des Italiens, etc. Donc, coordonner les actions et créer un rapport de force, moi, je crois beaucoup plus à ça. Sauf que c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à faire. Maintenant, malheureusement, quand il y aura les bulldozers, ça sera un peu difficile de se mettre devant, même nombreux, mais ça sera très difficile. Bon, ils ont quand même le poids des services de répression, hein. Il n'y a qu'à voir ceux qui sont là à côté de nous, et ils nous surveillent. Ils ont le poids de la finance, ils ont le poids des entreprises qui sont favorables parce qu'ils ne vont pas plus loin que le bout de leur nez. Donc eux, c'est soi-disant pour occuper du personnel, pour embaucher, etc. Ce qui est loin d'être vrai, et on pourrait parler de l'expérience de l'autoroute en Maurienne parce que je l'ai vécu, et je le disais tout à l'heure, ça n'a pas créé d'emploi. Hein.
Donc le rapport de force.
Donc le rapport de force, ça veut dire que l'opinion soit complètement défavorable au train.
C'est ce qu'il faudrait arriver à faire, ce qui n'est pas gagné. C'est pas gagné. Bon, on a quand même eu, là on vient de traverser Chaparian. Bon, je reconnais que c'est dimanche matin, qu'il fait chaud, que les gens sont calfeutés, ils ont fermé tous leurs volets, etc. Enfin, on n'a pas quand même eu beaucoup de mouvements de sympathie, même si il y a plein de panneaux tout le long, sur des propriétés privées d'ailleurs, hein, les panneaux contre le Lyon-Turin, c'est dans des propriétés privées, hein, c'est pas le collectif qui les a mis, bon voilà, c'est les gens qui les ont pris, qui les ont mis chez eux, donc il y a des opposants. Par contre, bon, il n'y en a pas beaucoup qui nous ont dit bonjour en passant, il n'y a pas beaucoup, voilà, c'est pas gagné. Il faut continuer à se battre.
Laï, lila, lila, laï. C'était un reportage qui a été fait par Anna, Loïc et Clémence. Et du coup, comme vous êtes là, les petits loulous, ce serait peut-être une bonne idée de nous dire ce que vous en avez pensé, comment vous l'avez vécu, cette marche, peut-être, Loïc.
Ouais, alors moi, je savais pas trop à quoi m'attendre, en fait. J'avais déjà vécu quelque chose qui ressemblait à ça, avec l'Alter Tour, en l'occurrence, mais on n'était pas aussi nombreux, on était une trentaine. Et là, je m'attendais à trouver une trentaine de personnes, quoi. Donc, on est arrivé à Chambéry. Notre petite voiture, alors il faisait super chaud, on allait se baigner dans un lac. Et là, donc on est arrivé un peu en avance, on devait rejoindre les copains. Et en face du lac, il y avait une espèce de colline sur laquelle il y avait une route qui serpentait. Et on a commencé à voir quelques voitures qui arrivaient les unes après l'autre avec des drapeaux, des gens qui étaient par les fenêtres. Ça faisait un peu de bruit. Et puis en fait. Cette route qui serpentait, bah, c'était un vrai convoi, quoi. Et on a halluciné, en fait, de voir, et tout le monde sur la plage a halluciné aussi, de voir cette immense ribambelle de bagnoles qui se suivaient et qui arrivaient au lac, quoi. Voilà, donc c'était quand même grosse manifestation, gros événement. Et là, donc, les voitures s'arrêtent, les gens sortent des bagnoles, se foutent à l'eau. Et c'était assez impressionnant. Donc les gens, ils hallucinaient, les filles étaient seins nus, donc on n'est pas habitués, quoi. Donc voilà, c'était juste pour moi une impression de force. Il y avait vraiment beaucoup de monde et c'était assez impressionnant.
Ok, et toi Clémence, alors je vous rappelle quand même que c'est un reportage du Poil à gratter, hein, parce que ça fait un petit moment qu'on ne vous l'a pas rappelé, on est le Poil à gratter. Et Clémence, du coup, toi, tu l'as vécu comment cette marche?
Alors moi, sur la marche, j'étais pas tellement avec le Poil à gratter, mais plus, comme je le disais tout à l'heure, avec le resto trottoir. Et du coup, c'est 300 personnes qui marchent. Il y a toute la logistique derrière, changer d'emplacement tous les jours et se nourrir. Donc moi, j'étais allée surtout pour ça. Enfin, j'aurais bien aimé voir un peu plus, mais il se trouve que des repas pour 300 personnes, ça laisse un peu la tête que dans les légumes, quoi. Et donc...
Ah, Laurent, il a la tête. Qu'est-ce qui se passe, Laurent?
J'ai une super transition avec cette histoire de légumes, mais je te laisse continuer un petit peu. Non?
Ah si, moi j'ai un truc à dire quand même, parce qu'on n'a pas une marche, et puis en fait, moi je parle de voiture, c'est bizarre, non?
Ouais.
Parce qu'en fait,
ouais.
Le truc, c'est que juste le jour où on est arrivé, c'était un jour, en fait, la transition à pied était merdique. Et en fait, ils ont fait une opération escargot, donc en voiture. Voilà, mais en général, les gens, ils étaient à pied. Et Florent, c'est quoi que tu veux faire?
Ah bah ouais. les escargots, les légumes, on reste dans le potager, dans le jardin, ça m'inspire vachement. Donc ça m'a inspiré justement un sujet. Alors là, j'ai tenté un son périlleux avec un sujet qui tente de faire la synthèse de ce dont on a parlé auparavant.
Surprise.
Là, ça galère un peu. Ah, je vais essayer d'autre.
C'est un geste important pour la planète.
Ça, ben non. Au contraire, pour la planète, ça sert à rien en fait. Ça, c'est juste pour le business. Là.
Mais quand même, dans l'idée de compostage, il y a l'idée de recycler, de.
Non, en fait, au niveau du compostage, il y a rien comme idée. C'est juste pour confirmer le biais qui est comme quoi il est validé pour entrer dans le train. C'est tout.
On m'avait dit que les vers, tout ça, ensuite, ça se transformait en terre, en terreau, on pouvait le remettre dans le jardin.
Ah ouais. après ça c'est des papiers, voilà, on peut. Non, ça c'est bon pour la terre, ça aussi. C'est pas comme les tout ce qui est vert et tout. Je parle des vers pour parler de l'environnement là, non, c'est ça.
Oui, le compost.
Le compost. Ah ouais, ça c'est bon ça pour le compost et tout.
Bah ça permet le. Que la fraude n'existe pas. Enfin, ça existe, mais ça l'empêche un peu.
Mais vous compostez après votre billet de train ? Qu'est-ce que vous en faites ?
Je le mets à la poubelle. C'est du plastique un peu quand même. C'est quoi ? Non.
Le train régional numéro 895 221 à destination.
Je vais faire composter à l'intérieur.
Départ.
Merci. De rien.
Partira. Voie D. Il dessert Besançon-Mézières, Mort.
Pardon. Pour vous, c'est important le compostage.
Et talent et.
Bah oui. Pourquoi
pas. Valdaon comme militaire.
Et vous ?
Ça marche pas. Si ça marche. Ah oui, il faut composter, c'est obligatoire, ça évite un PV, je crois.
Et au niveau de la nature ?
Ah, mais moi je les garde, je me les fais rembourser. C'est l'avantage.
Ah, d'accord. Mais vous compostez aussi chez vous ?
Je prends le train une fois par mois, donc je composte quand je viens de Montbéliard, automatiquement.
Et vos légumes, par exemple, vos épluchures de légumes
Oui, j'ai le bonheur de le faire, parce que j'ai un grand jardin.
Merci. Elle a l'air lourde, votre valise, est-ce que vous voulez que je vous aide ?
C'est surtout moi qui ne suis pas costaud.
Et que je vous donne un coup de main ?
Oh, je veux bien, c'est gentil, parce qu'il n'y a pas d'ascenseur à ce qu'elle a. Merci beaucoup.
Est-ce que vous avez déjà essayé avec des épluchures de légumes ?
Essayer quoi avec des épluchures de légumes ? Ah oui, 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 oui. Oh, merci.
Non.
Jamais ?
Jamais.
Vous compostez pas ?
Si. Mais c'est juste souvent que j'utilise le train, c'est tout.
Vous habitez pas à Besançon ?
À Belfort.
Il n'y a pas de compostage ?
Si, il y a. Mais je composte. J'ai composté. Aujourd'hui, j'ai composté.
Ah oui ?
Mais ça fait la deuxième fois que j'utilise le train.
Mais les légumes, depuis... les épluchures de légumes ?
De quoi, ça veut dire ? C'est les machines à composter, c'est ça ?
Oui.
Oui, il y en a à Belfort, il y en a.
Dans les jardins ?
Non, pas dans le jardin.
Là, vous mettez les légumes. C'est...
Ah, d'accord.
Vous ne connaissez pas ?
Non, je ne connais pas.
Qu'est-ce que vous voulez faire ?
Je compose le billet, pourquoi ?
Et vous avez l'impression de faire un geste pour la planète en faisant ça ?
Oh non, non. Pourquoi, c'est quoi la question ? C'est quoi sérieusement ? C'est quoi la question ? C'est quoi le vrai sujet ?
Un geste pour la planète.
Un geste pour la planète ? Sûrement pas en composant le billet, non, ça sûrement pas. En prenant le train peut-être, oui, mais sûrement pas en composant le billet. C'est dingue de dire qu'aujourd'hui, pour aller à Nice ou à Aix, vaut mieux prendre l'avion. Même pour aller à Strasbourg, ça coûte moins cher de prendre l'avion que le train. Quoi. Donc alors là, du point de vue de la préservation de la planète, c'est comme un délire intégral.
Votre photo est prête. Vous pouvez la récupérer à l'extérieur de la cabine. Merci et à bientôt.
Là, ça serait le moment idéal pour lancer une chronique qu'on pourrait appeler « La lutte ordinaire ». Et je pourrais balancer le jingle qui aurait sûrement cette allure-là. Les chroniques de la lutte ordinaire. La lutte ordinaire. La lutte ordinaire, c'est ces trucs du quotidien, ce travail au corps incessant pour bouger, bousculer, décaler un peu son environnement. C'est la lutte du petit mot, la rencontre qui marque. C'est plutôt une lutte souterraine. C'est le travail laborieux du décortiquage, la mastication, la déconstruction des réalités, des mécanismes sociaux. Les identifier, les démonter, les réinventer. Ouais, en fait, c'est le questionnement de la norme, quoi. Alors, c'est un peu fourre-tout, mais c'est intéressant, non? Attends. Puis sinon, j'avais une autre idée. Une autre rubrique. Ça serait une rubrique qu'on pourrait lire ou décrire un graffiti, une affiche, un tag qu'on aurait vu dans la ville ce mois-ci. Ça pourrait s'appeler « Sur les murs », genre.
Sur les murs.
C'est pas mal, non? Ou encore, tu sais quoi? Quand on discutait l'autre jour des mots, des expressions utilisées couramment, sans y réfléchir, qui nous paraissent tout à fait normales, et quand on s'y arrête 5 minutes, on sent bien que c'est chargé d'une certaine réalité, qu'il y a un discours là derrière qui transparaît, qui infuse. Eh bien, on pourrait faire une rubrique là-dessus, qui considérerait sérieusement l'importance des mots. Et puis là, ce qui serait génial, ce serait d'utiliser la chanson « C'est normal » de Brigitte Fontaine pour le jingle.
Qu'est-ce qu'il y a?
T'as pas entendu un truc bizarre?
Si.
Qu'est-ce que c'est?
C'est le gaz. C'est le gaz dans l'appartement dessous. Des fois, il y a des fuites, alors ça s'accumule. Puis s'il y a une étincelle, ça explose. C'est normal. Et qui dit explosion, dit détonation. D'où le bruit que t'as entendu tout à l'heure, voilà. La 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 la. La 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 la.
Ah ouais, ça serait bien, non? Et vivement le mois prochain.
La 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 la. La 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 la.
Tu sens pas le brûlé?
Ah ouais? C'est normal, je t'ai expliqué. Il y a eu une explosion.
Oui.
Et l'agitation moléculaire due à cette explosion...
La quoi?
L'agitation moléculaire.
Ah ouais.
Provoque une élévation thermique,
ouais,
suffisante pour enflammer les matières environnantes.
Ouais, ouais.
C'est alors ce qu'on appelle la combustion. C'est normal.
Ah.
Tu comprends?
Ouais, ouais.
La 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 la.
Mais alors...
la la. La la la
la la la la
la la la la la la la la la la la la la la. Qu'est-ce que tu voulais? La 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 la.
Je voulais savoir. Tout l'immeuble il est en train de brûler, c'est bien ça?
Ben oui, écoute. Les matières qui ont servi à la construction de cet immeuble sont très fragiles, tu comprends?
Oui.
C'est normal parce que de toute façon, il n'y a que des familles d'ouvriers et des étrangers, et quelques improductifs.
Ouais.
Alors le feu s'empare très facilement des matières.
Ouais.
Ça se propage, nous sommes donc en présence d'un incendie.
Ah, un
c'est
incendie.
Normal.
Ouais, ouais, ouais.
Ouais. La 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 la. La 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 la
sens pas comme si on commençait à tomber là, un peu.
Essaie de comprendre, c'est très simple.
Oui.
Tu te souviens la combustion?
Ouais.
La destruction de l'immeuble par les flammes?
Oui.
Bon, ça veut dire qu'en dessous, les murs et les étages ont disparu et que nous ne sommes plus soutenus par rien.
Ouais.
Or, une chose qui n'est plus soutenue par rien tombe. C'est ce qu'on appelle la pesanteur, c'est normal. La 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 la. C'est tout à fait normal. C'est l'attraction terrestre. La...
D'accord.
La 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 la.
La 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 la. La 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 la.
La 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 la. Quoi? Quoi?
Pardon, mais je pense à un truc. On va pas mourir dans une minute.
Brigitte? Tu es fatigante.
Pardon.
Non. On est en train de tomber.
Oui.
Or, tout corps tombe à une vitesse définie.
Oui.
Et en arrivant au sol, il subit une décélération violente qui amène la rupture de ses différents composants. Par exemple, les membres se séparent du tronc, le cerveau jaillit hors de la boîte crânienne, etc. Dans ces conditions de déconnexion, il est évident que le phénomène de la vie ne peut pas se maintenir, c'est normal. Tu comprends?
Ouais, ouais.
Eh, mais Clémentine?
Ouais.
C'est quoi ce gros livre?
La 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 la. C'est la trajectoire révolutionnaire du jeune 21e siècle. La 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 la. La la la.
Ah ouais, mais ça parle de quoi?
La la la
la.
Bah en fait, c'est incroyable, ça parle de lutte, ça parle de comment on fait quand il y a des gens qui construisent des trains ou qui plantent des OGM.
Ah oui.
Et c'est génial. La 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 la. La 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 la.
La 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 la.
Mais Clémentine, tu nous en lirais un bout?
La 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 la. Grave. La 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 la. J'ai un petit gros bout.
Oui.
De ce début de 21e siècle, nous avons encore le souvenir de ces révoltes, de ces insoumissions. Nous sommes nombreux à ne rien vouloir oublier. Nous savons pourtant que nous vivons dans un monde qui s'en emparera, nous en dépossédera, afin que des enseignements n'en soient jamais tirés et que rien de ce qui est advenu ne vienne repassionner les subversions à venir. Pour extirper cette mémoire d'un si funeste destin, nous avons fait un livre d'histoire, des histoires inadaptées, de rétifs, des histoires de lutte contre ce même ordre des choses qui menace aujourd'hui de les ensevelir sous son incapable actualité, sous son implacable actualité. Ne faites pas d'histoire. C'est en somme le mot d'ordre imposé par une époque piégée dans le régime de l'urgence et de plans de redressement. Ne faites pas d'histoire et suivez le courant. L'économie répondra à vos besoins, les aménageurs assureront votre confort, la police garantira votre sécurité, l'Internet votre liberté et la transition énergétique votre salut. Les histoires de cet ouvrage viennent mettre le trouble là où devrait régner le contrôle et la transparence. Elle reflète la recherche d'un certain ancrage dans un présent qui partout se défausse. Les histoires de cet ouvrage injectent du conflit dans la paix sociale, viennent mettre du trouble là où devrait régner le contrôle et la transparence. Elle reflète la recherche d'un certain ancrage dans le présent qui partout se défausse. Ce sont des histoires d'expérience et de transmission contre la dépossession, d'enracinement et de voyage contre l'anéantissement des territoires, d'intelligence collective contre l'isolement et l'exploitation. Elles parlent de jardins, de serveurs web, de stratégies, de fiction, de bouteilles incendiaires, de complicité, de zones à défendre, de free party, d'assemblées, de lieux collectifs. Des histoires à vivre debout et à donner du souffle.
Waouh.
C'est la fin d'Actu Lutte ?
Non, il y a une musique avant, je crois.
Ah, il y a une musique, mais après, c'est la fin d'Actu Lutte.
Après, c'est la fin d'Actu Lutte.
Et puis, on se revoit quand ?
Le premier.
Le premier quoi ?
Janvier 2016.
Ah oui, parce que en fait, l'idée, c'est tous les premiers vendredis du mois, de 13h à 14h, c'est ça ?
Ouais, comme ça, on n'oublie pas. Comme ça, les gens n'oublient pas.
Voilà. Mais on fête 2016 ensemble alors.
Ce sera le premier.
Oui.
Non.
De quoi non?
Attends, je crois que j'ai mal compris.
Oui, moi aussi.
Moi aussi.
On va quand même pas se voir le 1er janvier.
Ah. Non.
Non, ça sera fermé.
Tu veux dire la radio, elle continue, elle est ouverte.
La lutte ne s'arrête pas.
Mais on sera tout bourré, on sera tout malade, on aura tout mal au crâne.
On aura la même voix qu'au début, au sommaire.
Ah ouais.
Ouais, mais on n'est pas obligé de leur dire à tous les gens qui nous écoutent qu'on l'aura enregistré avant.
Ouais.
On laissera parler Bernard Friot.
C'est ça, Bernard.
Oh, pétard, ce sera.
Oui, il y a quand même un beau programme qui nous attend. On peut déjà annoncer un peu la couleur pour.
Ouais, il y aura 2-3 trucs, ouais.
Il y aura Bernard.
Il y aura Bernard parce qu'on aura filé le bon bouquin à Florent et il arrêtera de nous casser les noisettes.
Voilà, exactement.
Il y a Olivier qui revient aussi.
Olivier Besancenot qui était en meeting. C'était quand la date? Je me souviens déjà plus.
C'était jeudi.
C'était jeudi de la semaine dernière.
Voilà.
De la semaine dernière.
Exactement. Ouais. Donc un petit retour sur son regard sur les luttes. On a fait ça avec Johan.
Et des copines aussi qui parleront de qu'est-ce que c'est que d'être queer.
Queer.
Wow.
On va sûrement apprendre du vocabulaire aussi.
Et il y aura Pierre aussi, non?
Pierre.
Pierre Gattaz, non, c'est une blague.
Et en attendant, la rediffusion, ça serait où?
La rediffusion, ah bah oui, alors le truc c'est qu'il faut qu'on fasse un site web.
Non, mais
ah
on
oui,
peut.
Oui. Moi je pense que d'ici le 1er janvier, je vais me mettre à la construction d'un site web.
Wow.
J'ai plein d'idées,
ouais,
j'ai plein d'envies.
Big up Flo.
Mais ceci dit, on peut
quand même. Je recherche quand même des gens pour m'aider.
Ok.
Donc,
c'est un appel.
Vous appeler, voilà. C'est quoi le numéro? Tu l'as dit tout à l'heure.
01 53 40 30 20.
Voilà, c'est important.
Ça, c'est 10 foules.
Ah, c'est des restes, ça. Quand j'avais 12 ans, ça restait inscrit en moi.
C'est mignon.
Ouais. Mais ceci, on peut peut-être nous réécouter si vous avez loupé des bouts, si vous voulez écouter les micro-trottoirs de Florent, la marche de taf, hein, tout ce qu'il y a dans cette émission. Sur. Vous tapez Poil à gratter, Arte, et c'est le premier lien. C'est audioblog.
Voilà, c'est un blog d'Arte Radio.
Voilà, exactement.
Et d'ici là,
l'après-midi,
ne lâchez rien.
Ne lâchez rien.
Salut.
Et on se quitte avec une musique. Du coup, j'ai bien compris.
Allez.
Allez, musique.
Ciao.
Ciao.
La 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 la.
still good.